Bonjour à tous. Je vous propose de prier avant d'ouvrir la parole et de nous laisser enseigner par elle. Oui Seigneur, merci pour ce temps d'adoration que nous avons pu avoir, pour ce temps de rappel de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous à la croix. Tu es mort pour nous. Et maintenant, nous voulons tourner nos regards vers ta parole, laisser nos cœurs ouverts devant toi pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses faire ton œuvre en nous, ton œuvre de transformation que tu as démarrée à notre nouvelle naissance, mais que tu veux poursuivre encore tous les jours de notre vie. Et ce matin encore, j'espère. Amen. Si je vous demandais, du tac au tac, de me dire la première parole de Jésus qui vous vient à l'esprit maintenant, qu'est-ce que vous me répondriez ? Sans doute une parole d'amour. Je pense que celui qui viendrait en premier serait peut-être Jean 3,16. Tout le monde connaît bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. Ou peut-être Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Peut-être une parole bienveillante de Jésus envers un tierce, comme celle de Jésus au centurion en Matthieu 8, verset 10. Je n'ai trouvé chez personne une aussi grande foi. Ou peut-être alors une parole de puissance de Jésus, comme celle qu'il a adressée au paralytique que ses amis avaient amené en passant par le toit, où il lui dit « Lève-toi et marche ». Je suis à peu près certain que ce serait en tout cas une parole positive, une parole bienveillante, une parole de puissance qui vous viendra à l'esprit. Et à raison, puisque Jésus a eu de nombreuses paroles bienveillantes, de nombreuses paroles d'amour, d'appréciation envers les uns et les autres. Mais pourtant, Christ, il faut bien l'avouer, n'a pas toujours été tendre dans ses propos. Il était loin de tout regarder, de regarder toutes les situations avec un sourire béat. Non. Quand des choses devaient être dénoncées, il le faisait. C'était un homme innocent de tout péché, on l'a encore rappelé au moment de la scène, mais pas un homme lisse, pas un mollasson. Et lors de son dernier enseignement public à Jérusalem, le mercredi de la semaine de la Passion, donc 2 jours avant d'être crucifié, Jésus a justement eu des propos très durs. Des propos durs qu'il a adressés aux religieux de son époque, les pharisiens, les scribes. Ces propos, on les retrouve dans Matthieu chapitre 23, pardon, à partir du verset 13, Matthieu 23. Et Christ, dans ce chapitre, va prononcer 8 malédictions à l'intention de ces religieux. Alors ces 8 malheurs ne sont pas à proprement parler des malédictions comme on l'entend nous. C'est plutôt des avertissements, des lamentations, comme on dirait « hélas pour vous, hélas ». Mais ces propos sont violents. Jésus n'a jamais rien dit d'aussi dur à quiconque, que ce soit des pécheurs notoires, des sadducéens sceptiques ou des publicains vendus à Rome. Jésus n'a jamais adressé des paroles telles à ces hommes-là. Mais aux religieux, par contre, il va adresser des paroles extrêmement violentes, dures contre eux. Jésus, lors de son premier discours public qui est relaté en Matthieu, le fameux serment sur la montagne, a introduit ce discours par les béatitudes. Ici, dans ce texte, il fait le parallèle, l'écho par rapport à ces béatitudes, en évoquant ces malheurs. Et ces malheurs sont en contraste saisissant avec les béatitudes qu'il a adressées au début de son ministère. Et je crois que autant Jésus veut nous parler à travers les béatitudes, autant Christ veut aussi nous enseigner à travers les malheurs qu'il a prononcés par rapport à ces religieux de son époque. Et on va voir les malheurs les uns après les autres, ces 8 malheurs et la conclusion terrible de Jésus pour ces religieux. Le premier malheur, donc au verset 13. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Le premier malheur prononcé par Christ est lié au fait que ces religieux faisaient barrage à l'accès au royaume des cieux, donc au salut. Ils en verrouillaient d'une certaine façon l'accès. Et l'image utilisée par Christ ici est l'image de quelqu'un qui veut entrer dans une pièce et à qui on claque la porte devant le nez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est loin d'être agréable. Mais cette image-là qu'il utilise. Et les religieux faisaient barrage de deux manières en particulier. D'abord, l'enseignement des pharisiens, des docteurs de la loi, rendait cet accès encore plus difficile parce que leur enseignement était légaliste. Il y avait toute une série de règles voulues par Dieu à travers la loi, mais où ils avaient rajouté des choses, où il fallait respecter scrupuleusement ces lois. Et tout cela rendait encore l'accès au salut, l'accès à Dieu, plus difficile. Mais surtout, en s'opposant et en rejetant Jésus à de nombreuses occasions, tout au long de son ministère, ces religieux empêchaient le peuple d'aller vers Jésus. Un texte l'illustre très bien, c'est Jean 9, verset 22, qui dit « Les autorités juives avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme Messie. » Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen que de faire barrage à Jésus que celui-ci, que de faire barrage au royaume des cieux? Les religieux ont rejeté Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient garder leur prédominance sur l'accès au royaume de Dieu. Ils pensaient qu'ils représentaient, eux, cet accès, parce qu'eux connaissaient bien la loi, parce qu'eux pratiquaient bien la loi. Et donc, ils représentaient cet accès au royaume des cieux. Alors qu'en fait, ils en bloquaient l'accès. Ils avaient la prétention de conduire le peuple au salut, de conduire le peuple vers Dieu. Alors qu'en fait, ils empêchaient le peuple d'accéder réellement à Dieu. Leur manque de discernement avait un impact non seulement sur eux-mêmes, puisqu'ils n'avaient pas accès à Dieu réellement, mais en plus un impact négatif collectif vis-à-vis de tout le peuple. Et c'est cela que Jésus dénonce. Non seulement eux-mêmes ne pouvaient pas accéder au royaume des cieux, mais en plus ils bloquaient cet accès. Le second malheur, au verset 14. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. » Ces versets sont peut-être entre crochets dans vos Bibles. C'est parce qu'en fait, ils n'apparaissent pas dans les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Matthieu. Par contre, ils apparaissent dans l'évangile de Marc. Et certains pensent qu'ils ont été ajoutés par la suite dans l'évangile de Matthieu. Mais dans tous les cas, ce sont des versets bibliques, c'est une parole biblique. Et Jésus dénonce ici l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse que pratiquaient ces religieux. Parce qu'à cette époque, les scribes et servaient souvent de gestionnaires des biens aux veuves. Et cela leur offrait l'occasion, entre autres, de persuader ces femmes, éplorées, tristes, qu'elles servaient Dieu en apportant leur soutien financier soit au temple, soit à l'œuvre des scribes elles-mêmes. Ils usaient quelque part de leur influence religieuse pour abuser des faibles, pour abuser des sans-défense, et en faisaient quelque part leur gagne-pain. Et le pire, et c'est ce que dénonce Jésus encore plus, c'est qu'ils maquillaient leurs mauvaises intentions par de longues prières. Ces longues prières n'avaient pas du tout pour motivation une dévotion vis-à-vis de Dieu, mais en fait, juste la recherche de l'apparence, la recherche d'être admiré. Et il ne faut pas se leurrer, encore aujourd'hui, cela se passe. Benny Hinn, peut-être que vous avez entendu parler de lui, est un télévangéliste américain qui a fait plusieurs campagnes de guérison en Europe par le passé. Vous pouvez trouver encore des livres à la CLC. Alors, je ne suis pas allé voir la CLC à Grenoble, mais vous allez sur la CLC, sur le site de la CLC, vous pouvez commander certains de ses livres. Cet homme, il y a quelques années, était à Genève pour annoncer l'évangile de la prospérité, pour faire des guérisons. Et à un moment donné de cette rencontre, il a demandé des sujets de prière aux personnes qui étaient présentes. Il faut vous imaginer, on est beaucoup plus nombreux que là ce matin. Tous les gens avaient leur petit papier, leur petit crayon, ont pu écrire leur sujet de prière. Et en parallèle de cela, il a demandé de soutenir son œuvre. Donc les gens avec le petit papier, chèque, le petit crayon, ont écrit quelques chiffres. À la fin derrière l'estrade, son staff ouvrait les enveloppes, jetait les sujets de prière et encaissait échec. Et c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai. Et le pire, c'est que le lendemain, soi-disant prophète, s'est mis en colère parce qu'il n'y avait pas eu assez, suffisamment d'offrandes. C'est des choses qui sont encore vraies aujourd'hui. Christ conclut ce son bon malheur en soulignant qu'une telle attitude sera sévèrement condamnée. Et on peut dire que ce n'est que justice devant de tels abus par rapport à Dieu. On poursuit, verset 15. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous lui faites mériter l'enfer deux fois plus que vous. » Au premier abord, on pourrait penser que le zèle est foncièrement une bonne chose. C'est bien d'être zélé. Jésus explique ici que ce n'est pas toujours le cas. Parce que le zèle débordant de ces religieux pharisiens scribes, qui les faisait parcourir jusqu'à la terre entière à la recherche de nouveaux disciples, n'était pas marqué par le désir d'apporter le salut à ces hommes et ces femmes, mais par le désir que ces hommes et ces femmes se tournent dans leur sphère à eux, qu'ils rejoignent leur parti. Pas Dieu, mais leur parti, à eux. Et leur zèle religieux produisait un mauvais fruit. Car en imposant à ces convertis des restrictions de la tradition qu'ils mettaient en avant, ils les empêchaient de voir la vérité du salut, tout simplement. Le salut par grâce, offert par Dieu. Ils n'amenaient pas ces âmes au salut, mais les faisaient intégrer un système religieux, fait de règles et de lois à suivre. Un système religieux néfaste, nauséabond aux yeux de Dieu. Et le résultat de ce zèle, c'était que ses disciples devenaient pires que leur maître. Il est bien dit, vous leur faites mériter l'enfer deux fois plus que vous. En quoi devenaient-ils pires que les pharisiens? Peut-être probablement parce qu'ils ne faisaient qu'ajouter à leur culte d'idole la mauvaise influence morale de ces pharisiens qui étaient hypocrites dans leur pratique de leur propre religion. Charles Spurgeon, un célèbre prédicateur du XIXe siècle, a un jour raconté l'histoire suivante. Il marchait dans une rue de Londres quand un homme ivre l'a abordé. Prenant appui contre un réverbère, l'homme s'est écrié « Hé, monsieur Spurgeon, je suis l'un de vos convertis !» Spurgeon s'est retourné, l'a regardé et lui a dit « Vous êtes certes l'un des miens, car vous n'appartenez sûrement pas au Seigneur. » Même s'il est loin d'être parfait, le disciple réel de Christ ne devient pas pire qu'il l'était avant sa conversion. Au contraire, par l'action du Saint-Esprit dans sa vie, par l'influence divine dans sa vie, il va de progrès en progrès, mais ne devient sûrement pas pire, comme c'est le cas pour ses religieux. On poursuit, verset 16 jusqu'au verset 22. « Malheur à vous, guide aveugle. En effet, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il doit tenir son serment. Insensé et aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Ou bien vous dites, si quelqu'un jure par l'autel, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, il doit tenir son serment. Aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? En fait, celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Les religieux avaient fait une distinction arbitraire et arrangeante en matière de serment qui leur permettait de faire quoi en fait? De mentir impunément. Je prends un serment, mais je... Tu sais, c'est par l'autel, donc c'est moins grave. Je prends un engagement, mais je peux ne pas le tenir devant Dieu. Non, ça leur permettait de mentir, tout simplement. Et pour eux, jurer par le temple ou par l'autel n'obligeait en rien d'accomplir son engagement, de tenir son engagement. Et Jésus condamne encore cette attitude. Il met en avant deux principes ici. Le premier principe, c'est que l'engagement, notre engagement, doit être respecté dans tous les cas. Pourquoi? Parce que du verset 20 au verset 22, Jésus explique que quel que soit l'objet par lequel ils juraient, Dieu était impliqué dans leur engagement. et donc par conséquent ils étaient tenus de respecter leur engagement. Et si on en vient au premier discours de Jésus, sermon sur la montagne, Jésus a été très explicite, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Un engagement à tenir toujours, dans tous les cas. Et le deuxième principe, peut-être encore plus important pour nous aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas ce qui a de la valeur aux yeux des hommes, mais c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qui rend ces choses importantes aux yeux de Dieu. L'or ou l'offrande peuvent avoir peut-être plus de valeur à nos yeux en tant qu'hommes et femmes. Mais c'est parce que cet or, cette offrande, était dans un lieu consacré pour Dieu qu'elle devenait réellement importante. Et dans le même sens, mon service pour Dieu, ce que je peux faire pour Dieu, et où on attache peut-être parfois trop d'importance, n'a pas de valeur si ce service n'est pas réellement consacré à Dieu. Je peux tomber dans un activisme total et faire des choses qui ne sont absolument pas consacrées à Dieu. Et ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce qui a de la valeur, c'est un service consacré à Dieu, c'est-à-dire un service soumis à la volonté de Dieu. Un service qui recherche la gloire de Dieu et pas sa propre gloire, comme on le verra un peu par la suite sur un autre malheur. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, et pas mes propres yeux d'abord. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui est consacré à Dieu réellement. Poursuivons notre lecture, verset 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guide aveugle que vous êtes, vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron et vous avalez le chameau tout entier. » Jésus dénonce ici la négligence de ces religieux concernant des principes moraux importants sous-jacents à la loi. Et cette négligence est d'autant plus consternante qu'elle s'associe chez ces religieux à une recherche méticuleuse de tous les petites bémols, toutes les petites choses de la loi. Ils oublient l'important et consacrent leur vie aux détails. Et ces religieux faisaient attention uniquement aux aspects secondaires de la loi et ne se préoccupaient pas de la signification spirituelle de cette loi. Ils avaient perdu en fait tout sens de valeur. Les pharisiens étaient à l'affût de toutes les petites incartades à la loi qu'ils auraient pu avoir. Mais ils oubliaient, ils ne portaient aucune attention à ce qui faisait la force de la loi et la révélation que Dieu voulait donner au peuple à travers la loi. Une révélation de justice, de bonté, de fidélité. Mais c'est des notions qui leur échappaient totalement. Ils faisaient plutôt attention à la forme, jusqu'à regarder au cumin, ou à la menthe, à toutes ces choses-là, plutôt qu'au fond des choses. Mais Jésus souligne aussi que ce n'est pas pour cela qu'il faut négliger ces détails. Mais ce qui est important, c'est les fondements moraux de la loi. Et Jésus illustre leur erreur à travers le fait que certains pharisiens avaient pris pour l'habitude de filtrer leur boisson à travers un tissu fin pour ne pas risquer d'avaler un moucheron qui est la plus petite bête impure d'après la loi. On retrouve ça dans Lévitique 11. Mais en essayant de ne pas avaler ce moucheron, en fait, ils avalaient le chameau qui est la plus grosse bête impure d'après la loi. Ils mettaient toute leur vocation sur les détails et ils oubliaient ce qui était important dans la loi de Dieu. Et à travers cela, certes, ils évitaient d'avaler le moucheron, mais ils avalaient le chameau. Et aujourd'hui, je crois que le même risque existe. On peut être attaché à des détails, à des moucherons, et avaler le chameau facilement. Par exemple, en faisant de son cheval de bataille une interprétation spécifique sur un sujet mineur de la théologie biblique. Parfois, quand vous lisez certains livres, vous demandez comment on peut arriver à un tel mépris. Comment l'auteur peut arriver à un tel mépris par rapport à ceux qui ne pensent pas comme lui? Et vous demandez, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? En voulant imposer aussi telle ou telle manière de faire, parce qu'on a toujours fait comme ça, sans aucune réflexion biblique, ça aussi c'est une mauvaise intention. Ou alors, en tombant facilement dans de mauvaises pensées, dans de mauvais propos, par rapport à des détails extérieurs chez quelqu'un d'autre. Tout cela sont des choses qui peuvent nous arriver dans nos vies et où on regarde le détail au lieu de regarder ce qui est important, ce qui est profond et ce que Dieu nous demande réellement. Poursuit verset 25. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. » Les religieux suivaient certaines règles de purification. Mais encore une fois, le fait qu'ils portaient leur attention quasi exclusivement sur les aspects extérieurs se trouvait à la base de leur erreur. Ils étaient superficiels. Ils vivaient comme si l'apparence extérieure était ce qu'il y avait de plus important, au détriment de l'être intérieur. Et c'est sur cette attitude que repose toute leur hypocrisie. Jésus condamne cette piété de façade en leur recommandant de purifier l'intérieur de la coupe, ce qui peut avoir un double sens. Un sens propre, c'est-à-dire veiller à la pureté de ce qu'on met dans la coupe et qu'on mange. Il y a des choses que nous devons veiller, mais aussi un sens plus spirituel. Faire attention à nos propres sentiments, faire attention aux pensées qui habitent nos propres corps, cœurs. L'avant-dernier malheur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. Vous de même à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. La coutume voulait, surtout avant, à la veille de Pâques, que les Juifs blanchissent les tombes pour les embellir, et surtout pour bien les marquer, pour éviter de les toucher. Parce que vous savez, si on touchait une tombe, on était rituellement impur, et donc le Juif qui touchait une tombe n'aurait pas pu fêter la Pâque. Et pendant que Jésus parlait, dans la cour du Temple, je vous rappelle qu'on est le mercredi de la Semaine Sainte, les religieux avaient justement sous leurs yeux les tombes blanchies le long des pentes ouest du Mont des Oliviers. Et à l'image du précédent malheur, Jésus condamne le fait que ces religieux se soucient uniquement de leur pureté extérieure, de leur apparence, d'avoir une bonne apparence aux yeux des hommes. Et l'intérieur qui, lui, est découvert devant Dieu, ne leur posait pas plus de soucis que ça. Ce qu'il fallait, c'est faire bonne apparence pour avoir l'accord aux yeux des hommes. Mais l'intérieur du cœur, pas grave. Les autres ne le voient pas, mais Dieu le voit, lui. Ils montraient en tout cas par là que leur préoccupation était essentiellement liée au regard des hommes, au lieu d'être de faire essentiellement attention au regard de Dieu dans leur vie. Dans son livre « Le Dieu prodigue », Tim Keller raconte l'histoire suivante. Il était une fois un jardinier qui avait fait pousser une énorme carotte. Alors, je n'ai pas amené de carotte, vous pouvez l'imaginer. Il l'amena à son roi et lui dit « Monseigneur, voici la plus grosse carotte que j'ai jamais fait pousser. Je veux donc vous l'offrir en signe d'amour et de respect pour vous. » Le roi fut touché et vit que cet homme avait le cœur pur. Si bien que lorsqu'il lui tournait les talons, il lui dit « Attends un peu. Tu es visiblement un excellent jardinier. Or, je possède un lopin de terre voisin du tien. Je vais te l'offrir afin que tu puisses agrandir ton potager. » Enchanté, le jardinier rentra chez lui, le cœur en fête. Mais un noble de la cour avait entendu la conversation. Il se dit « Mince, s'il a obtenu un tel présent pour une simple carotte, que vais-je obtenir en présentant un cadeau bien plus beau ?» Le lendemain, il se présenta donc devant le roi en tenant par bride un superbe étalon noir. Là non plus, pas de cheval, vous l'imaginez. Il s'inclina très bas et dit « Monseigneur, j'ai un élevage de chevaux et voici le plus beau de mon écurie. Je vais donc vous l'offrir en signe d'amour et de respect pour vous. » Mais le roi comprit ce que cet homme avait en tête. Et après l'avoir remercié, il prit les talons et le laissa partir sans rien lui donner. Le noble était perplexe. Aussi le roi lui déclara-t-il « Je vais t'expliquer une chose. Ce jardinier m'a donné une carotte, alors que tu t'es donné à toi-même ce cheval. » Et ce noble, je crois, représente bien les religieux à l'époque de Jésus. Un religieux qui veut se faire passer juste devant les yeux des hommes, qui veut faire croire qu'il donne quelque chose à Dieu, alors qu'en fait, il ne donne rien à Dieu. Il donne pour lui, il donne pour sa propre gloire, il donne pour être bien vu au regard des autres. Est-ce que c'est une attitude que nous n'avons pas parfois ? où nous oublions à qui nous donnons, et de réfléchir à qui et pour qui nous faisons les choses. Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est pour moi? Le dernier malheur, verset 29. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous édifiez de somptueux tombeaux aux prophètes, vous couvrez d'ornements ceux des justes, vous dites si nous avions vécu du temps de nos ancêtres, nous ne nous serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-le à son comble. » Les religieux expliquaient à qui voulaient l'entendre qu'au contraire de leurs aïeux, ils n'auraient pas assassiné les prophètes venant de la part de Dieu. Et Christ dénonce avec fermeté cette idée, en leur expliquant que bien au contraire, leur attitude vis-à-vis de lui montrait au contraire qu'ils étaient de la même veine que leurs descendants, que leurs aïeux. Et par leur hostilité envers Jésus, les religieux prouvaient qu'ils possédaient le même esprit meurtrier que leurs ancêtres, qui avaient versé le sang des prophètes et étaient donc par là leur enfant spirituel d'une certaine manière. Ils allaient même bien plus loin que leurs ancêtres, parce que ce ne sont pas des prophètes à qui ils avaient affaire, mais ils avaient affaire au Fils de Dieu, qu'ils allaient assassiner 2 jours plus tard seulement. Un journal a posé la question un jour suivante. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Le philosophe catholique Chesterton a écrit une brève lettre en réponse à ce journal. « Chers messieurs, ce qui ne va pas, c'est moi. » Cordialement, Chesterton. C'est une réalité. Ce qui ne va pas dans ce monde, c'est moi. Et faisons attention à ne pas vouloir nous dédouaner parfois. Ça nous arrive. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé en lisant certains récits de la Bible de vous dire « Moi, j'aurais quand même fait mieux ». Est-ce que quand vous lisez Adam et Ève, est-ce que vous ne dites pas « Je pense que moi, j'aurais pas pris le fruit ». C'est une grossière erreur parce que toute notre vie, en tout cas si vous vivez la même vie que moi, démontre le contraire. Et démontre que nous aurions failli, comme Adam et Ève, et comme d'autres personnages de la Bible. Nous ne sommes pas innocents devant Dieu. Et la religion veut parfois nous faire croire que nous sommes innocents. Non, nous ne sommes pas innocents devant Dieu. Personne ne l'est. Et enfin, le dernier verset qui conclut ce passage de Jésus, et où il évoque la conséquence pour ces religieux hypocrites. Verset 33, verset 36. « Serpent, race de vipères, comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer? En effet, je vais vous envoyer des prophètes, des sages et des spécialistes de l'Écriture. Vous allez tuer ou crucifier les uns, fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents, depuis celui d'Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. Oui, vraiment, je vous l'assure, le châtiment mérité par tous ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération. » La conséquence de l'attitude de ces religieux, terrible, c'est le châtiment de l'enfer dont Raph a parlé la semaine dernière, le châtiment de l'enfer. Et ce châtiment est doublement mérité pour ces religieux assassins, parce qu'ils n'ont eu de cesse de tuer des innocents depuis Abel, le premier martyr en Genèse 4, jusqu'à Zacharie, le dernier, en 2 Chroniques 24. Et cela couvre tout les innocents assassinés dans l'Ancien Testament. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible juive, ne se termine pas par Malachie, mais se termine par 2 Chroniques. Et Jésus donne tout l'Ancien Testament à ces religieux pour l'expliquer, leur faute, leur manque de discernement. Et bien sûr, c'est doublement mérité parce qu'ils vont paracher leur œuvre exécutoire en tuant, en assassinant l'homme innocent par excellence, le Fils de Dieu lui-même, 2 jours plus tard. À première vue, si vous lisez pour la première fois l'évangile au tout début, quand Jésus arrive, sur qui vous auriez misé une pièce pour dire qu'ils auraient reconnu qui était Jésus? Moi, j'aurais misé une pièce sur les religieux, personnellement. Et c'est ceux dont on aurait pu penser qu'ils étaient le plus proches, le plus près de comprendre qui était vraiment Christ, qui se sont loupés le plus lamentablement et qui vont devoir en subir les conséquences. L'exemple de ces religieux hypocrites nous montre à quel point ce type de religion, de religiosité, est éloigné de ce que Dieu veut. Cette religion est marquée par l'hypocrisie, une conduite qui dément la foi, les traditions, les rites, les détails qui sont plus importants que le fondement spirituel de l'amour. Elle est dénaturée parce qu'on regarde à l'image de soi. C'est l'apparence qui est privilégiée sur le fond. Elle est dénaturée parce que le salut n'est pas par Dieu, mais parce que j'accomplis, parce que je fais. Et quelqu'un a dit à ce propos, des propos assez forts, la religion ça pue, l'évangile ça décoiffe. Ce sont des paroles fortes, mais c'est des paroles réelles, je crois, si la religion ressemble à cette religion hypocrite des pharisiens. L'évangile est à l'opposé d'une telle religion. Et voilà quelques différences marquantes. La religion, Scott, si tu veux bien, c'est si j'obéis, je suis accepté par Dieu. Je fais ça et je suis accepté. Mais l'évangile, c'est je suis accepté, donc j'obéis. La religion, c'est si je suis bien, si je suis quelqu'un de bien, Dieu m'aimera. L'évangile, c'est que je suis pécheur, mauvais. Et heureusement pour nous, Jésus, Dieu, aime les pécheurs. La religion, c'est que tout le monde soit bon, soit mauvais, selon le carcan qu'on fixe et les règles qu'on se fixe. L'évangile, c'est que tout le monde soit repentant ou non. Il n'y a pas de bon, il n'y a que des mauvais, mais des mauvais repentants ou des mauvais qui ne savent pas se repentir. L'accent dans la religion est mis sur ce que je dois ou ne dois pas faire et toute la liste des choses que je m'impose. L'accent est mis dans l'évangile sur ce que Jésus a fait pour moi. Ce n'est pas ce que moi je fais qui apporte une pièce en plus à mon salut, mais c'est ce que Jésus a fait, uniquement. Dans la religion, on est rendu fier si on réussit, ou désespéré quand on constate l'échec. L'évangile rend humble parce que je n'ai rien fait, je suis juste au bénéfice du sacrifice de Christ, et rend confiant parce que mon salut ne repose pas sur moi, mais sur Dieu. Et enfin, il y en a d'autres, hein, sûrement. À travers la religion, je suis motivé par la peur de ne plus être aimé par Dieu, la peur de l'échec. Mais dans l'évangile, je suis motivé par l'amour inspiré par l'Esprit, l'amour inspiré par Dieu dans ma vie. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné par ce message sur les religieux hypocrites. On pourrait faire un sondage ce matin. Y a-t-il de religieux hypocrites parmi nous ? Mon intention n'est pas de vous blesser. J'aimerais pouvoir vous dire que dans ma vie, je suis très éloigné de cela et que ça ne me concerne pas. Mais ce serait un mensonge. Aujourd'hui, on met très souvent en garde contre tous les dangers de perversion de la chair sous toutes ses formes. Et on a raison de le faire parce que ce sont des choses que Dieu nous demande de nous garder de ces choses-là. Mais je constate que dans ma vie, de chrétien qui a eu la Bible avec le biberon, comme on dit, qui est né de nouveau relativement jeune, sans rébellion excessive, qui depuis a essayé de mener une vie plus ou moins droite, que mon plus grand problème, ma plus grande difficulté n'est pas forcément liée aux perversions de la chair, même si je suis loin d'être innocent, je sais que c'est un combat pour moi, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément mon plus grand combat. Souvent, ce que je constate, c'est que mon plus grand combat, c'est cette religion-là, dans ma vie. De faire attention à ce que, dans ma vie, je ne mette pas l'accent sur ce que je fais. Que dans ma vie, ce ne soit pas l'orgueil ou le désespoir qui me gagne selon ma pratique, la pratique de ma religion. Ou que dans ma vie, ce ne soit pas la peur qui me motive. Et c'est souvent cela qui m'habite, qui est un combat pour moi et peut-être pour vous. Et comme on peut être de religion catholique, de religion musulmane, de religion hindouiste, on court parfois le risque d'être de religion évangélique. Et si on va dans un extrême, on court le risque de devenir un religieux évangélique hypocrite. Le résultat de cette religion, même si on lui donne le nom d'évangélique, est le même que pour ces religieux que Jésus a condamnés. C'est la chute, c'est le châtiment de l'enfer. Nous avons à faire attention dans nos vies, chacun, les uns les autres, à conserver le bon cap, le cap qui mène vers l'Évangile, et à rejeter, souvent, peut-être toujours, dans nos vies, le cap de la religion nauséabonde aux yeux de Dieu, la religion hypocrite. Christ, on l'a vu, n'a pas eu que des paroles plaisantes et bienveillantes tout au long de son parcours sur terre. Je prie pour que le jour où nous rencontrerons Christ, les uns les autres, il ait des paroles bienveillantes pour chacun d'entre nous parce que nous aurons conservé le bon dépôt de l'Évangile. Je prie que chacun, que personne dans cette salle ne soit devant Christ accusé d'être un religieux hypocrite. Que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Et si nous avons fait fausse route, nous sommes tombés dans une religiosité de façade, que nous puissions être transformés par le véritable Évangile. Amen.